Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit sa réflexion sur les restes humains, traces mais aussi ferments d'humanité, en se penchant sur le cas de la Shoah par balle, qui a laissé un nombre incalculable de charniers à travers l'Europe, et nous le ferons en compagnie du Père des Bois, qui a joué un rôle pionnier dans ce domaine. La mémoire de la Shoah, qui s'est concentrée sur les camps d'extermination, qui avait cette particularité qu'il faisait disparaître les corps, a longtemps relégué la Shoah par balle, c'est-à-dire les massacres de juifs dans les villages ou les villes d'Europe centrale, commis au vu et au su de la population, et dont les corps sont restés sur place. Et je vous propose donc de revenir ce soir sur la manière dont ces fosses communes, dont ces massacres ont été identifiés, dont ces fosses ont été parfois fouillées, toujours au milieu des témoins de ces massacres. Patrick Desbois, bonsoir.
Antoine Garapon, bonsoir.
Alors, vous avez écrit, c'est votre troisième livre, La Shoah par balle, avec une préface de Denis Péchanski. Vous aviez déjà écrit précédemment Porteur de mémoire, Michel Lafon et chez Flammarion, La fabrique des terroristes dans les secrets de Daesh, avec Costel Nastasis et chez Fayard en 2016. Et je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation pour nous expliquer le travail pionnier que vous avez fait pour aller sur place, rencontrer les gens, rencontrer les témoins et aller vous confronter directement non seulement à la mémoire, mais à la matérialité des crimes de ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que vous avez d'ailleurs labellisé, la Shoah par balle.
D'abord, je ne suis pas tout seul. On est 29 plein temps à le faire. En ce moment, j'ai 3 équipes. Dans mon association, dans des pays différents, la Russie, l'Ukraine, la Pologne. Et effectivement, depuis 15 ans minimum, nous nous rendons dans les villages en frappant aux portes des gens lorsqu'ils se réveillent et en leur demandant, avec des locaux, leur demandant s'ils étaient là pendant la guerre et s'ils étaient présents le jour de la fusillade des Juifs ou des Roms. Et s'ils répondent oui, on leur demande s'ils acceptent d'être filmés. Et je dirais que la plupart acceptent, et là commence, je dirais, une véritable reconstruction du crime, où tôt ou tard, si la personne peut encore marcher, nous l'emmenons sur la fosse commune des Juifs ou des Roms, auprès duquel elle était présente le jour de l'assassinat.
Oui, alors parfois d'ailleurs, cette fosse commune intervient de manière subreptice dans la conversation. Vous rapportez cette histoire, Patrick Desbois, où vous êtes en train d'enquêter sur le massacre des Juifs qui a lieu dans un village, je ne me souviens plus lequel, et une femme intervient pour dire « mon potager ».
Oui, c'était un souvenir que je n'ai jamais pu oublier, car au début, je pensais que les exécutions des Juifs par les unités nazies étaient secrètes. Et tout d'un coup, je vois un petit monsieur avec une casquette. Il ressemblait à un jockey dans un tiercé. Et il se plante au bout du pré et il dit « Moi, j'étais là, j'ai tout vu. » Et je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est impossible. » Et il n'arrêtait pas de répéter qu'il était présent. Il protestait. Et puis tout d'un coup, sur ma gauche, je vois une dame très forte mettant un genre de manteau, ce qu'il faisait froid, et courant, en disant « Mon jardin !» Et ce jardin, donc, était un jardin avec des légumes, il y avait des tomates, et j'ai compris que sous les tomates, sous le jardin, il y avait les Juifs. Et je dirais que cette scène s'est répétée à de multiples reprises. Souvent, le silence au sujet des corps vient du fait qu'on cultive dessus.
Et qu'on n'en éprouve aucun dégoût?
Non. Ah non, l'humanité s'est basée largement sur des fosses communes. Dans beaucoup de pays, il y a eu les mauvais que l'on a tués, puis on a bâti des pays démocratiques ou des dictatures. Et je crois que malheureusement, au fond de l'humanité, je dirais, il y a une fosse commune.
Donc la fosse commune, pour vous, Patrick Desbois, c'est quelque chose, une réalité de laquelle il faut partir pour comprendre l'humanité, pour comprendre l'histoire aussi?
Oui, d'abord, au début de la Bible, on dit que Caïn assassine Abel, et on dit que la terre a avalé le sang. Et donc c'est un peu ce qui se passe. Je pensais, moi, que les gens qui vivaient auprès d'une fosse commune, qu'elle soit petite ou grosse, car la plus grosse fosse commune contient plus de 50 000 juifs, étaient traumatisés ou bien déménagés. Et je me rappelle, j'avais interviewé une femme, sa maison était isolée entre la fosse commune des juifs et l'ancien cimetière juif. Il n'y avait aucune autre habitation. Et je dis à la dame, c'était il y a 15 ans, je dis à la dame, vous n'avez pas peur de vivre là? Et elle éclate de rire, elle me dit, chez nous, on n'a pas peur des morts, on a peur des vivants.
Mais c'était une phrase terrible, ça.
Oui, mais cela en dit long, c'est comme cela que j'ai appris, je dirais, l'indifférence, le fait d'assentir finalement à ce que le jardin, le pré, soit construit sur une fosse commune.
Mais vous dites aussi, c'est pour ça que la fosse commune a une telle importance dans votre travail, Père Desbois, c'est que la fosse commune, c'est à la fois le lieu du crime, c'est aussi le modus operandi, c'est-à-dire que vous avez découvert dans toutes ces enquêtes dans la Biélorussie, en Ukraine, en Pologne et ailleurs, vous avez compris que ça nécessitait toute une organisation extrêmement précise d'ailleurs.
Oui, pour assassiner les gens, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les Allemands arrivaient à l'heure. Rarement ils dorment dans le village où ils tuent des juifs. Ils arrivent au petit matin, ils roulent la nuit en convoi, ils arrivent au petit matin et ils partent à l'heure, la plupart du temps à 5 heures de l'après-midi, parce qu'ils doivent rentrer dans leur ville, se laver, souvent faire la fête.
Et faire la fête.
Oui, il y a une fête, souvent qui est faite avec de l'alcool ou des filles, pour se débriefer, je dirais, de l'assassinat. Et on a eu des témoignages des gens qui les ont vus faire la fête le soir. Et ce qui m'a surpris, c'est que comment ils pouvaient faire pour arriver à l'heure, partir à l'heure, et que tous les juifs étaient morts, que les juifs soient 2500 ou 1300. Et donc, petit à petit, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait une méthode, un protocole caché de la part des nazis? Au début, j'ai pensé que c'était simplement un savoir-faire qui s'était installé. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai trouvé dans les archives ces points. En fait, il suivait un protocole de tuerie qui impliquait les voisins à chaque étape. Il fallait des voisins pour creuser les fosses, il fallait des voisins pour encercler les juifs, il fallait des voisins pour transporter les juifs en charrette, il fallait des voisins pour combler la fosse alors que les juifs sont pas morts, il fallait des voisins pour ramener les vêtements, il fallait des voisins pour nettoyer les vêtements, il fallait des voisins pour amener la cendre sur le sang qui sortait de la fosse, etc. C'est-à-dire, les voisins sont comme des mécaniques humaines que les Allemands ont mis en place avec un timing très précis qui leur permettait de faire le job.
Alors, c'est votre méthode, Patrick Desbois, c'est de partir de la matérialité des faits dans ce que ça a de plus concret. Et ben, il faut commencer par mesurer la fosse qu'on va construire. Et vous vous intéressez à ce caractère métrique du massacre, pourrait-on dire.
Mais bien sûr, parce que s'il n'y avait pas eu les fosses communes, il n'aurait pas pu laisser 2000 juifs tués en plein air. Il risquait d'y avoir des photos. Les Allemands, en plus, étaient très obsédés par les maladies. Donc, je dirais que ils ont un sens mécanique. En même temps, les fosses sont faites à la main. Nous avons interviewé la fille d'un creuseur. Donc, c'était un paysan ukrainien qui avait été réquisitionné pour creuser la fosse. Et la maman avait mis la petite fille dans l'herbe pas trop loin pour voir si les Allemands allaient tuer le père. Et le soir, le papa est rentré. Je demande à la femme, qu'est-ce que ton père a dit quand il est rentré? Il a dit, il pleurait et il a dit, la fosse était trop petite, faut qu'on en fasse une autre demain matin. Donc c'était quand même des fosses faites main. Je dirais ça parce que on a l'idée d'Allemands absolument parfait au niveau mécanique, oui et non. Les fosses étaient faites sur le modèle aussi des fosses dans lesquelles on met les pommes de terre ou les choux dans les fermes. Donc les gens faisaient comme ils font d'habitude, je dirais. Et puis s'il n'y a plus de place pour les juifs suivants, ben, on va recreuser des fosses demain.
C'est ça. Alors, et d'ailleurs avec une organisation, des planches notamment qui sont indispensables.
Ça dépend des régions. Les planches sont utilisées pour que les juifs montent sur la planche et soient tués en famille ou en groupe, par groupe de 5 ou 6. Mais on a vu que quand les Allemands utilisent des planches, c'est parce que dans la région, on utilise aussi des planches pour les fosses de pommes de terre. C'est-à-dire qu'on met quelqu'un avec un seau, et puis il descend, il y a quelqu'un d'autre en bas qui met les pommes de terre dans le seau et qui les remonte. Ce sont des régions spéciales. C'est-à-dire les fosses communes des juifs étaient faites sur le modèle des fosses agricoles soviétiques.
Alors vous disiez, Père Desbois, vous disiez réquisitionner. En fait, là, on rentre dans le dans toute l'ambiguïté de ces témoins, de ces bystanders. C'est que ils sont réquisitionnés, mais on leur propose aussi d'intégrer des polices locales qui sont une sorte de supplétifs des SS ou de la Gestapo pour pouvoir organiser, parce que tout ce processus qui est assez long.
Mais ce ne sont pas les mêmes. Ceux qui intègrent la Polizei, ce sont des gens jeunes ou moins jeunes à qui on propose, les Allemands proposent dès l'arrivée dans le village de les rejoindre. Effectivement, ils sont bien souvent associés aux meurtres. Ce sont souvent des meurtriers. Ils ont autorisation de tuer, de participer aux meurtres, de voler. Et ils représentent l'autorité allemande locale avec un pouvoir terrible. Tandis que les réquisitionnés, ils sont réquisitionnés sur le modèle soviétique. C'est-à-dire le maire, qu'on appelle pas le maire, va envoyer un petit billet à des tas de gens demain 8h du matin avec votre pelle. Et les gens sont réquisitionnés un jour pour les Juifs, le lendemain pour enlever de la neige, le troisième jour pour enlever du bois. Ça faisait partie de la vie communautaire soviétique, russo-soviétique, ce qui fait que ces gens ne se posaient guère de questions et qu'après, je dirais, leur comportement vis-à-vis des Juifs peut être différent. Certains ont du mal à faire le travail et certains font le travail avec joie parce qu'aussi ils vont agripper un vêtement, une chaussure, une pièce en or et qu'ils vont être récompensés aussi parce que parfois ils détestaient les Juifs.
Oui, parce qu'on viendra après sur les sentiments de la population, mais d'abord pour comprendre ce travail, Patrick Desbois, comprendre ce travail et comprendre une participation. Vous rappelez cette scène dans le livre, dans votre livre, la Shoah par balle, donc, vous rappelez cette scène où il est question de choisir la date et qui montre qu'il n'y a pas une programmation centralisée qui tombe de top-down, on dirait aujourd'hui, dans une chaîne de commandement impeccable et sans accroc. En réalité, on négocie avec, sur place, avec les correspondants, on pourrait dire, dans le village.
Vous comprenez qu'il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas de locomotive, il n'y avait pas de chambre à gaz. Donc les barbelés, c'est les voisins. Donc sans les voisins, vous pouvez pas tuer une population, vous pouvez pas tuer les Juifs ou les Roms. Il faut que les voisins, bon gré, mal gré, vous aident. Et donc les Allemands avaient un management très décentralisé, très local, je dirais, pour se mettre en accord avec la municipalité, avec les polices locales, nationales ou allemandes, et puis avec la main d'œuvre. Par exemple, ils veulent manger à midi. Donc il faut voir s'il y a une cantine et si la cantine est prête à cuisiner pour que ça soit prêt à midi. Donc je dirais, effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai découvert très tardivement, il n'y a pas de génocide sans voisins, on n'aurait jamais pu tuer les Juifs sans les voisins, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que les voisins sont choisis pour vivre ce jour-là. Et je crois qu'on ne mesure pas ce que ça veut dire, les Juifs sont choisis pour mourir, les Roms aussi, les communistes aussi, les partisans aussi, et les autres sont choisis pour vivre. Donc je crois que la joie d'être choisi pour vivre, même par un occupant, transforme apparemment beaucoup de gens. Et ça, c'est une des motivations, à mon avis, très forte. J'ai demandé à une dame qui avait vu plus de 7 ou 8 exécutions, elle était une enfant, et elle allait à toutes les exécutions, elle était éduquée, elle était institutrice avant. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous alliez voir ces exécutions? Elle m'a répondu, mais parce que c'était intéressant pour nous, les enfants. Et cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois. Alors, on peut s'horrifier, mais on peut se dire que tout d'un coup, un enfant qui réalise qu'aujourd'hui, il est condamné à vivre alors que toute la moitié de la population va être assassinée sous ses yeux, eh ben apparemment, il est content. Et il y a aussi, donc évidemment, bien sûr, la motivation antisémite. Certains étaient absolument ravis de voir les Juifs se faire assassiner sous leurs yeux. Et aussi, il y avait la motivation, je dirais, de prise de biens. Il faut pas oublier que le lendemain, ils allaient avoir les vêtements, les chaussures, les cuillères, les casseroles, les chevaux, les animaux et les maisons. Donc, je dirais, et puis aussi parfois les filles qu'ils allaient pouvoir violer, car malheureusement, il ne faut pas oublier que l'acte criminel des nazis était un acte criminel. L'antisémitisme pur n'existe pas, il transforme les gens en criminels, et dans le crime, il y a le vol et le viol. Et donc, il a fallu du temps. Je dirais que quand on enquête comme cela sur un génocide sur le terrain, dans les villages, on prend une leçon très violente d'humanité. L'humanité criminelle, l'humanité génocidaire, au local. Donc qu'est-ce qui fait que, par exemple, les voisins allaient voir? Qu'est-ce qui fait qu'ils restaient toute la journée? Qu'est-ce qui fait qu'un grand-père met sa petite fille sur ses épaules et lui dit « Est-ce que tu vois bien ? Est-ce que tu vois bien ?» Donc c'est à force d'entendre ces milliers de témoins, qu'on se pose des questions. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, on n'était qu'en Ukraine. Donc on dit, oh là là, les Ukrainiens. Après, on était en Pologne, on dit, oh les Polonais. Après, on était en Biélorussie, on dit, oh les Biélorusses. Mais aujourd'hui, je travaille en Irak sur les Yazidis, il n'y a pas de Polonais, du moins très peu. Il n'y a pas beaucoup d'Allemands, il y en a quand même. Il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens, et on trouve la même chose. Donc on est obligé petit à petit de voir que c'est une question humaine, et que l'humain, je dis, le génocide ne se love pas dans l'humanité comme un serpent, il en fait partie.
Oui, mais est-ce que vous constatez, par exemple en Irak, cette même coexistence de la quotidienneté du grand-père qui parle à sa petite-fille, monte sur mes épaules, est-ce que tu vois bien, qu'es-tu quelque chose que chacun d'entre nous peut facilement s'imaginer, une quotidienneté qui coexiste, qui aide, qui participe à un crime absolument hors norme, peut-être inégalé dans l'histoire.
Ah oui, moi je constate la même chose. Daesh, lorsqu'il attaquait un village de Yazidis, puisque je travaille avec les Yazidis, il avait fait un deal avec les clans des villages voisins. Et je me rappellerai toujours ce témoignage d'un petit garçon, je ne sais plus quel âge il avait, 11 ans, et il m'a raconté comment il a été arrêté. Donc il m'a dit, mon meilleur ami, un copain d'enfance, il n'avait pas dit ce mot-là, puisque c'est un enfant, et l'avait appelé pour jouer dans la maison. Et il jouait, tout d'un coup, son voisin a fermé la clé et a appelé les Daesh en disant, j'ai un Yazidi chez moi. Il dit, c'est mon meilleur ami qui m'a vendu. Eh bien ça, vous l'avez partout. Un jour de génocide, chacun essaie de voir comment tirer profit de cette vie qu'il a finalement donnée par une dictature terrible.
Mais en même temps, ça existe aussi, vous en mentionnez une dans votre livre, des amourettes ou des relations d'attachement d'une jeune fille vis-à-vis de son petit copain qui était juif, qui était dans le ghetto et qui a envie de le suivre d'ailleurs.
Ah oui, on a beaucoup de relations qui ont été brisées par les Allemands. Cette dame, oui, qui était amoureuse d'un garçon qui s'appelait Samuel. Et elle entrait clandestinement dans le ghetto pour lui amener du lait, puis après elle pouvait plus parce qu'un policier l'avait battue. Et le jour de l'exécution, elle les voit en file et elle rejoint la file. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle n'a même pas pu me dire qu'ils avaient été tués. Elle m'a dit « je n'ai jamais revu Samuel ». Et donc elle était restée, cette adolescente, je dirais, en regret de Samuel, qui avait été finalement assassiné par les Allemands et qui aurait été l'amour de sa vie. Nous en avons rencontré beaucoup. Oui, le génocide se fait dans la pâte humaine.
C'est ça. Et avec aussi cette particularité que quand vous entendez les gens, les témoins, vous avez l'impression souvent que c'est qu'ils le revivent. Et c'est pas qu'ils témoignent, ils revivent la scène et leur corps quasiment de nouveau devient présent au crime.
Oui, j'avais parlé avec une psychiatre spécialiste du cerveau en Israël et elle m'avait dit, ça vient aussi du fait qu'ils n'ont jamais parlé. Ils n'ont jamais parlé, donc ils ont mis ça quelque part dans leur cerveau. Elle m'a dit, comme dans une petite boîte. Et quand vous arrivez avec votre caméra, le film sort. Donc je crois que ça vient aussi beaucoup de ça, car souvent on a dit, mais est-ce que vous en avez déjà parlé à quelqu'un? Ils disent, non, pas depuis 42. Et nous sommes quand même bientôt 70 ans après. Et donc du coup, c'est vrai que c'est par exemple, lorsqu'on entre dans une ferme, souvent la personne veut commencer à parler avant qu'on ait le temps d'installer la caméra. Et donc il faut que quelqu'un s'en occupe pour qu'elle ne commence pas son témoignage tant que la caméra n'est pas prête. Elle sent qu'enfin elle va pouvoir le dire.
Donc. Mais Patrick Desbois, est-ce que ça ne signifie pas également un immense silence entre ces populations? Ils n'en ont jamais parlé entre eux, qu'ils témoignent pas, peut-être qu'ils n'en ont pas eu l'occasion, mais ça veut dire que c'était un non-sujet, on dirait aujourd'hui. On n'a pas parlé de ce massacre de 5000, 7000 juifs du village en une journée.
Ben, disons que le non-sujet, c'est un terme propre, parce qu'ici on est en démocratie, mais il faut se rendre compte que ces gens ont vécu en régime soviétique des dizaines d'années. Et que si tout d'un coup, on racontait qu'on avait été d'une façon ou d'une autre proche des Allemands, même en servant de la soupe, on risquait d'être déporté ou fusillé. Les premiers témoins, je me rappelle, disaient à la fin, on va me fusiller. Donc, je pense qu'on n'imagine pas, on a oublié maintenant le caractère coercitif de l'Union soviétique dans son quotidien. N'oublions pas que tous ces gens n'étaient pas ukrainiens, russes ou biélorusses, mais soviétiques.
Oui, c'est ça. Alors, vous dites, il y avait des gens, certains ont agi par antisémitisme, pas tant que ça, peut-être.
On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que moi, je me rappelle, un monsieur, il m'avait dit que sa maman travaillait comme femme de ménage dans la Gestapo. Et donc pour moi, c'est mon meilleur témoin. Parce qu'il allait voir sa maman tous les soirs, il voyait les tortures. Donc vous nous imaginez bien que je lui demande pas s'il est antisémite. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui enquêterait sur les gangs qui attaquent les grands-mères et on dit « Aimez-vous les grands-mères ?» Ah ben non, évidemment, s'ils attaquent les grands-mères, c'est qu'ils les aiment pas et qu'ils veulent leur bien. Donc je dirais, les gens pensent souvent qu'on est le baromètre de l'antisémitisme du témoin, mais je dirais nos meilleurs témoins étaient les plus antisémites.
Oui, en même temps qu'on est frappé de cette absence totale d'empathie pour le sort des Juifs, mais alors là, qui est massif, à vous lire, à mille exemples, ces personnes qui pensent à tout de leur quotidien, sauf aux Juifs, sans parler de ce témoin qui, parlant des pelotons d'exécution, parle de la souffrance de ces pauvres troupes sans un mot pour les Juifs.
Oui. Je dirais que c'est peut-être aussi un peu soviétique où on ne montre pas facilement ses sentiments, mais il est vrai que la plupart des... pas tous, hein, ceux qui ont été arrêtés comme enfants, par exemple, je songe à une dame, elle était dans une classe de petits-enfants, et un policier est entré et a fait sortir tous les enfants juifs, et demi-juifs d'ailleurs, et les a fait fusiller. Eh bien, des années après, elle pleurait. Certains pleurent en se souvenant du témoignage qu'ils ont enfoui. Mais il est vrai que pour la majorité, ils en parlent aussi platement que si ça avait lieu au Moyen-Âge.
Est-ce qu'il vous semble soulagé de parler ?
J'en sais rien, c'est pas tellement non plus ma question. Je comprends que c'est un peu décevant quand on en parle ici. Une fois, une femme m'a dit « Toute ma vie, j'ai rêvé de dire ça à quelqu'un. » Mais c'est rare. C'est rare. Je ne sais pas aussi si... chez les soviets, les sentiments faisaient partie du quotidien dans leur expression.
Vous attribuez beaucoup de choses à la société, soviétique, à l'homo soviéticus,
oui.
Patrick Desbois.
Oui, en plus, l'une de mes traductrices, dont je ne tairai le nom, me dit qu'elle est restée elle-même favorable à l'Union soviétique. Et c'est elle-même qui m'a appris, je dirais, comment on faisait. Par exemple, au début, je souriais en travaillant. Elle m'a dit « Chez nous, on ne sourit pas en travaillant ».
Yiddische Mame, es geht nicht besser in der Welt. Yiddische Mame, oi war wie bitter, wenn sie fällt. Oi wie lichtig und schein ist in Eis, wenn die Mame ist du. Wie traurig finster Welt. Wenn sie geht, wegzugehen. In Wasser, in Feuer, wollen sie gelaufen vor ihr Kind. Die Staaten sie teilen, das Wohlgewein die Gräste sind. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat. Als er scheine Matune, Geschenk von Gott. Noch ein Altitschke, jüdische Mame, Mame, meine.
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Patrick Desbois, qui a choisi de nous faire entendre un chant en yiddish. Est-ce que vous pouvez nous présenter ?
D'abord, la chanteuse, c'est Talila, c'est une amie qui chante en yiddish depuis longtemps et qui habite Paris. Et j'ai eu la chance de pouvoir la ramener dans son village d'origine en Pologne. Nous avons organisé d'ailleurs à Lublin, avec son orchestre, une soirée-concert en yiddish à Lublin. Et je me rappelle que les jeunes qui n'avaient jamais plus entendu de yiddish, évidemment depuis 42 ou 43, écoutaient éberlués ces chansons qui devaient sillonner les rues de Lublin il y a longtemps.
Certains témoins se souvenaient du yiddish, avaient encore la sonorité.
Oui,
on a
trouvé plusieurs fois des personnes qui travaillaient chez des juifs et qui prononçaient encore des phrases en yiddish, qui vivaient finalement au sein de familles juives, oui.
Alors, Pierre Desbois, vous avez travaillé sur les témoins. On va revenir sur les charniers, sur la découverte des restes humains. Mais avant, je voudrais, tordre le cou à un cliché que nous avons tous en tête, d'ailleurs, peut-être, et que vous avez rencontré, y compris aux États-Unis. C'est celle d'une SS et d'une armée allemande extraordinairement tournée vers l'antisémitisme, très idéologisée, fanatisée, et qui se concentrait sur la sur l'extermination en se comportant comme des toujours comme des soldats. C'est pas ce que vous avez découvert, vous?
Ah non, pas du tout. Effectivement, ils sont fanatisés, ils sont bourrés d'idéologie antisémite, pensant que c'est les Juifs qui mènent l'Union soviétique et qu'il faut les détruire jusqu'au dernier bébé. Mais ils sont des criminels. Je me souviens l'un des témoins qui se rappelait qu'un Allemand surexcité, lorsqu'il fusillait des enfants, sautait dans la fosse pour déshabiller les bébés et disant qu'il allait emmener ses manteaux pour ses propres enfants en Allemagne. Je me souviens de ce témoin qui habitait près d'une gare et le soir, les tireurs venaient se réchauffer les pieds après l'exécution des Juifs et l'un d'eux sort un mouchoir avec des dents en or en disant « je voudrais vous les vendre parce que je pourrais pas le faire à la Gestapo ». Ce sont d'abord des criminels. Je dirais l'antisémitisme est une autorisation de tuer avec tout ce que cela comporte. Il ne faut pas imaginer l'antisémitisme comme une science pure. Je dirais, les nazis n'étaient pas une ONG. J'ai jamais vu un nazi tuer des juifs et dire l'argent ça m'intéresse pas, l'or ça m'intéresse pas. Il ne faut pas aussi croire.
Il pillait
et il violait.
Oui, et il violait. Alors ça c'est le tabou des tabous quand même sur les viols. Même, je veux dire, parmi vos témoins, très peu en parlent en même temps que vous avez des moyens d'établir que c'était pratique et existait.
Oui, c'est toujours dit par... Par hasard, je dirais, on était une fois avec une délégation de juifs de Milwaukee aux États-Unis et on visitait une ville en Lituanie, et un petit village plutôt, et en plein milieu du village, le témoin s'arrête de marcher et dit « Voyez la grange, là, c'est là où ils violaient les femmes. » Il dit « Elle criait très fort. » Et il racontait ça d'une banalité. Et la délégation qui était juive, on était totalement bouleversés d'entendre ça. Et je crois que les viols étaient aussi faits, je dirais, en plein jour, devant tout le monde. Et il n'y a pas de génocide sans viol. Et ce qui m'a réveillé, c'est un jour en Roumanie, on m'a fait visiter une grange qui était devenue un musée. Et c'est une grange dans laquelle on avait fusillé des juifs. Et donc il y avait des portraits dans toute la grange, c'était très bien fait. Et tout d'un coup, je dis, c'est bizarre, il n'y a que des portraits d'hommes. Et le monsieur qui fermait la porte à clé, sans se retourner, me dit, ah, mais ils ont violé les femmes, mais c'est pas pareil, elles sont pas mortes. Et puis c'est tout. Donc j'ai tout d'un coup vu que le viol était vu comme un dommage collatéral du génocide. Et c'est pour ça qu'après, maintenant, nous demandons qu'est-ce qu'il est arrivé pour les filles, comme on dit. Et là, je dirais, parfois, la parole se libère.
Parfois.
Parfois, oui. Parfois, assez rarement. Et surtout aussi, si jamais des locaux étaient impliqués dans les viols, évidemment, il y a le silence.
Parce que, en revanche, sur les détails de l'organisation, votre technique, Patrick Desbois, est tout à fait particulière. Et d'ailleurs, entre parenthèses, extrêmement fructueuse, c'est que vous vous intéressez, vous entendez les gens, vous questionnez les gens, non pas sur des grandes choses comme l'antisémitisme ou même sur la mort, sur des petits détails matériels. Il faisait froid, comment vous avez fait, quel bruit ça faisait les sabots de cheval sur le bitume, qui a apporté les planches, qu'est-ce que vous avez fait des planches après ?
Monsieur Garapon, mais Antoine Garapon, il n'y avait pas de bitume.
Ah ben, je l'ai lu dans le livre, justement, ça m'a surpris.
Non, ça devait être sur une grande route, c'est à Minsk, oui, car sinon Minsk. C'était sur la Terre.
C'était sur la Terre. Bon, mais cette manière de qui vous vient peut-être d'ailleurs de votre propre histoire,
Patrick Desbois. Ah oui, moi je livrais du bois avec mon grand-père. Moi, je m'appelle Desbois, ce n'est pas tout à fait par hasard. Et mon grand-père livrait du bois, on avait plusieurs chevaux et des chariots, et on faisait des kilomètres. Et évidemment, comme enfant, je m'amusais à faire galoper les chevaux. Donc, je me souviens encore des noms des chevaux, de leur caractère, de leur tempérament. J'ai toujours vécu, je dirais, dans cet univers fermier. Je suis d'une famille de petites gens, comme diraient les autres. On ne s'est jamais vu des petites gens nous-mêmes, et qui ont été pris dans les machines de l'histoire. Mais toute cette vie de ferme, de cours, de chevaux qu'il faut atteler, de chariots, de roues qui grincent, de planches en bois et tout ça, je le connais par ma vie personnelle. Oui, et mes oncles et tantes vivent encore dans cet univers, malgré qu'il n'ait plus de chevaux.
Mais ça veut dire que, en fait, les gens parlent plus volontiers des chevaux, du froid, des planches, de petits détails,
oui, j'ai appris
que l'essentiel.
J'ai appris ça en Afrique. les orateurs, on était des fois des milliers, il faisait très chaud, c'était en haute volta, et ils commençaient par dire « il fait chaud aujourd'hui ». Alors toute la foule dit « ah oui, il fait chaud, le soleil est pourtant très très loin, oui, il est très loin ». Et puis après, ils arrivaient dans les choses concrètes. Et donc j'ai vu aussi que quand les gens qui étaient à côté d'une exécution de juifs se souviennent qu'ils avaient froid, ou qu'ils étaient assis sur l'herbe, ou qu'ils étaient grimpés sur un arbre, ils se souviennent de l'arbre. Donc je prends cet exemple. C'était un monsieur qui amenait des corps de juifs qui avaient été tués dans une cave. Il les amenait pour les jeter dans une fosse pendant l'exécution. Et je savais qu'il parlerait avec difficulté. Donc, il savait que je lui parlerais des juifs. Donc, je me suis dit, je ne vais pas en parler. Donc, je lui dis, c'est un chariot grand, un cheval, deux chevaux. Quelle couleur étaient les chevaux? Il commence à me regarder, il me donne les couleurs. Je dis, mais comment s'appelaient vos chevaux? Et au bout d'un moment, de parler des chevaux, il n'a plus pu s'empêcher de parler des juifs qui étaient dans le chariot. Donc je dirais, c'est accentuer l'interview sur une part du paysage animal ou humain dans lequel il était, et tout d'un coup, je dirais, le crime lui-même va être avoué, parce qu'on a reconstitué dans son imaginaire, je dirais, les odeurs, les sensations qu'il avait à cette période, et du coup il va dire le reste. D'autant plus si on ne s'y intéresse pas.
Et alors vous avez reproduit la même chose pour les crimes de Daesh, en partant de la géographie extrêmement concrète des lieux.
Ah oui, j'interrogeais une femme qui était mariée de force avec un Daesh, et qui, ce Daesh faisait des tortures et puis des peines de mort. Il avait fait 75 décapitations à Aleppo. Et je lui disais, mais voilà, vous descendiez, elle me parlait d'une prison. Je lui dis, combien de marches d'escalier? 5. Je dis, après, la clé était grosse comment? Comme ça. Il y avait une clé? Non, il y avait deux clés, etc. etc. Et petit à petit, elle parlait de la salle de torture, parce qu'elle était aux côtés de celui qui les faisait.
Comme quelque chose d'accessoire.
Oui, il faut, c'est en ne cherchant pas l'essentiel que vous le trouvez. Et donc, si par exemple, là, durant cette interview, je m'acharne à vous parler de la table, et du bois, et de la couleur, et de la taille carrée de la fenêtre, au bout d'un moment, vous allez me dire, oui, mais parlons du sujet. Et vous allez y arriver. Et donc, la mémoire, elle est faite aussi de sensations et de topographie. Mais là aussi, j'ai vécu en monde rural, encore aujourd'hui, avec mon frère, on était dans le même environnement, nous savons exactement où était chaque arbre. Le sapin, un noisetier, un arbre avec du tilleul, etc., les cerisiers, ils sont toujours au même endroit. Donc, je dirais, l'assassinat des Juifs se surgissait dans un environnement qui n'a pas bougé. Et aussi, il faut savoir que les témoins habitent souvent la même maison qu'ils habitaient en 42. Donc, ils savent aussi où était la maison des Juifs qui ont été tués, où était la synagogue si elle est toujours là, où était l'endroit où la fille des voisins a été violée, etc. Donc, ils sont dans l'environnement naturel du crime.
Mais d'où, quand vous venez alors avec vos équipes, et dans certains cas, vous creusez
On a creusé au début par maladresse. Et puis, on nous a bien vite enseigné qu'il fallait respecter strictement les lois juives. Et donc, j'ai fait une excavation officielle avec les rabbins de Zaka, c'est une organisation de rabbins orthodoxes. Nous avons choisi un endroit où officiellement on n'avait pas tué de juifs. Donc la loi ne s'appliquait pas, jusqu'au moment où on a trouvé 17 fosses communes, avec plus de 1000 juifs qui avaient été tués. Et c'est absolument frappant parce que on retrouve exactement dans quelles conditions ils ont été assassinés. On voit aussi, je me rappelle toujours de ce corps d'une maman qui tenait son adolescent par la main. Et l'adolescent n'était pas mort, donc il essayait de sortir de la fosse, a vu, il était enterré vivant. Ou d'une autre dame qui était enterrée vivante, on voyait la bouche ouverte et qu'elle avait été enterrée vivante. Donc, c'était sûrement les jours les plus durs. Il nous a fallu, je crois, 27 jours, il me semble. On dormait dans un petit hôtel pas loin et on passait notre journée à faire les allers-retours entre l'hôtel et ses fosses. Et c'est vrai que je me rappelle le soir, moi je prenais 2-3 douches car on avait l'impression de sentir la mort.
Et est-ce que vous avez l'impression, parce que vous avez fait un travail d'enquête auprès des témoins, un travail d'excavation, vous avez arrêté? Pourquoi vous avez arrêté?
On a arrêté parce que la règle du judaïsme orthodoxe est que ces juifs victimes de la Shoah sont des saints, des tzadikim, et qu'il faut les laisser reposer en paix pour qu'ils ne se repréoccupent pas de la vie sur terre. Et donc il est interdit en fait d'ouvrir les fosses, sauf pour des besoins extrêmes ou des besoins de justice. Donc en fait nous ne le faisons pas. Nous croisons les archives soviétiques, les archives allemandes, c'est pour ça qu'on est 29 plein temps, parce que les soviets ont ouvert toutes les fosses, hein, en 42-43, pas toutes, mais la plupart. Les archives allemandes, les archives polonaises, s'il y en a, lituaniennes, des survivants, et puis les témoignages des voisins, et parfois les recherches balistiques, là où les tireurs étaient placés, ou bien les recherches de bijoux, là où les femmes jetaient leurs bijoux quand elles voyaient qu'elles allaient être assassinées.
Alors, vous avez pu établir une cartographie en recoupant toutes ces sources archivistiques et ces témoignages oraux. Vous avez pu établir une cartographie assez précise.
Oui, nous avons une carte qui est accessible, d'ailleurs, qui est en ligne sur notre site, à Yara, de l'association qu'on a fondée. Et sur chaque point, vous avez une petite photo du lieu, vous avez des morceaux de vidéos de témoins ou des photos d'archives et des pages d'archives. Ce que nous voulons montrer, c'est que chaque crime a des preuves. La négation de la Shoah est impossible, car pour chaque crime, on retrouve des voisins, on retrouve des douilles, il y a des archives de sources contradictoires, etc. Donc, on veut m'en rendre accessible, je dirais, les preuves des meurtres. Pour moi, je considère la Shoah comme un meurtre, c'est-à-dire le petit soldat qui arrivait de Munich et qui tirait, et puis le monsieur qui ensevelissait des juifs vivants, son voisin. Ils sont responsables, voire coupables. Je n'accepte pas de dire qu'il n'y a qu'Himmler, Hitler et les grands chefs à Berlin qui ont la culpabilité. Et donc, je dirais, je traite l'ensemble de ces crimes comme le crime d'Abel par Caïn. Chacun avait un nom, le jeune Allemand avait un nom, la voisine ou le voisin qui enterre les Juifs ont des noms, et les Juifs qui sont enterrés ont des noms. Donc il s'agit d'un crime, bien sûr qui s'est fait dans la conjoncture d'un génocide, mais chaque fois, je dirais, le criminel a tué.
Et donc c'est un travail de justice que vous faites, Patrick Desbois.
On essaye, il y a aussi un travail de justice, mais aussi de restitution. Il y a énormément de familles qui nous écrivent d'un peu partout en disant dans quelle fosse commune est ma grand-mère, dans quelle fosse commune est le rabbin ou mon oncle. Et si l'on peut, on envoie quelqu'un dans le village, voir si quelqu'un se souvient, et la personne retourne dans le village, je dirais, et retrouve des gens. J'oublierai jamais, j'ai accompagné comme ça Madame Revkolevski, qui était la directrice de la Fondation de la Shoah, et elle a retrouvé dans son village d'origine 3 clients de son grand-père, dont elle avait jamais entendu parler, et qui l'ont amené dans le jardin du grand-père, je dirais, et ça a été très émouvant pour elle, et pour nous aussi. Et je crois que c'est la première chose, c'est rendre les morts aux familles, c'est aussi les rendre au peuple juif, puisqu'on avait dit au peuple juif que les morts avaient disparu, qu'ils avaient été brûlés. Non, beaucoup de morts sont enterrés n'importe où, comme des animaux, et aujourd'hui déterrés par des voleurs. Et je dirais aussi, réapprendre à l'humanité qu'il faut arrêter de bâtir l'humanité sur des fosses communes. C'est-à-dire, si on arrive à protéger ces fosses, les juifs seront les premiers à revenir sur leurs fosses. Car généralement, le peuple des victimes ne revient pas sur la fosse. La fosse n'est pas une tombe, c'est vraiment un lieu d'oubli.
Mais finalement, en les localisant, en identifiant les personnes qui se trouvent dedans, en identifiant la communauté juive à laquelle ils appartenaient, c'est une manière de transformer ce lieu anonyme en sépulture, en véritable sépulture.
C'est surtout dégager de la terre pour les morts. C'est-à-dire, comme on le fait pour un cimetière, on dégage une surface et là c'est l'espace des morts. Là, que l'espace de la fosse commune soit un espace sur lequel on ne bâtit pas et sur lequel finalement les vivants font une place aux assassinés. Et je pense que cette cohabitation avec les assassinés, juifs, roms ou autres, dans la Shoah, est une meilleure prévention, car on sera embêté par cette protection. Quelqu'un m'avait dit « vous transformez notre pays en un cimetière ». Quelqu'un qui n'était pas amical, évidemment. Et je lui ai dit « ce n'est pas moi qui les ai tués ».
Mais est-ce que cette cohabitation, on voit bien la cohabitation entre les familles de Milwaukee ou d'Israël ou de France qui retrouvent un morceau, un moment de leur histoire personnelle.
Ils ne retrouvent pas un moment, ils retrouvent là où est le corps de leur grand-mère, c'est très différent. C'est comme quand vous allez au cimetière, vous ne trouvez pas un moment de votre vie, vous ne posez pas une fleur sur un moment. On met le nom sur la tombe. Donc ils peuvent aussi dire Kaddish pour la première fois, dire une prière juive, souvent depuis la première fois depuis 42, et aussi parfois mettre un petit mémorial. Nous insistons maintenant, nous revenons d'un voyage avec l'UEJF, l'Union des jeunes juifs de France, où nous avons mémorialisé plusieurs sites en Ukraine, car ces gens n'ont pas de mémoire, c'est-à-dire on les a néantisés de l'histoire, mais aussi de la mémoire.
Mais quand il y a, je pense à la ville de Kiev par exemple, où il y a une partie qui est construite aujourd'hui d'ailleurs, il y a des routes, il y a des hôpitaux peut-être même.
Plus la ville est grande, plus c'est difficile. Vous avez tout à fait raison. Plus la ville est grande, plus c'est difficile, comme pour Varsovie, comme pour Minsk, parce que l'anonymat se perd dans la masse. Oui, vous avez raison. Mais néanmoins, il y a des grandes villes où les gens savent très bien où est la fosse commune, où sont les fosses communes. Et l'une des villes, par exemple, ils ont construit sans frémir une banque sur les fosses communes en jetant tous les os.
Mais est-ce que vous mettez quelque chose qui rappelle cet endroit, un signe, un signal?
Pour le moment, nous ne le faisons pas, mais nous allons le faire. Nous ne le faisions pas parce qu'il y a des chercheurs d'or qui cherchent à rouvrir les fosses. Et donc, mais nous allons le faire, nous allons entrer avec mon organisation IARAD dans une nouvelle étape qui va être de mémorialiser ces sites pour, je dirais, les préserver et surtout qu'ils deviennent, je dirais, par l'empêchement des vivants à y revenir, une leçon pour demain.
Une manière de refaire ce sur quoi nous reviendrons, une communauté morte-vivante, parce que finalement toutes les communautés humaines ont un lien avec leur mort.
Oui, il faut que Caïn apprenne à cohabiter avec Abel, sinon on est finalement dans la communauté internationale des survivants qui sont les assassins.
Comment refaire humanité après ce que vous dites, Père Desbois, et qui est par certains côtés extraordinairement sombre, parce que vous avez constaté ce qui a été fait aux juifs d'Europe centrale, aujourd'hui aux yézidis, demain dans d'autres théâtres, comme si c'était une constitutive même de notre humanité.
Oui, c'est pour ça que je suis optimiste, car je vois de nombreux juifs qui reviennent sur leur fosse, de nombreux Roms aussi, qui reviennent sanctifier, préserver leur fosse, car il est sûr qu'à Mossoul, quand je voyais toutes ces fosses, ou quand nous avons découvert 35 fosses communes de yazidis, mais que les chiens dévorent les os qui restent, et dans le même temps on donne un prix Nobel de la paix à une survivante sans protéger les morts, c'est dangereux, parce que les tueurs de masse le savent, si on met nos victimes dans les fosses, personne n'y reviendra. Ce qu'il faut dire comme signal aux tueurs de masse, c'est tôt ou tard, il y a quelqu'un qui revient.
Parce que les morts sont les témoins de tous ces crimes, les principaux.
Oui, les corps des morts sont le témoin, je dirais, enfoui du meurtre. Oui. Et donc de la civilisation qui va arriver dessus. Et on ne pourra pas indéfiniment bâtir des principes humains sur les fosses communes de ceux qu'on a tués avant.
C'est la fameuse phrase de Virgile, « Justissima tellus », la terre est la plus juste.
Oui, la terre est la plus juste. C'est pour ça que je me réjouis en même temps du nombre d'étudiants, du nombre de jeunes qui veulent absolument retourner sur ces sites, y prier et les conserver. Ce n'est pas des jeunes qui sont marqués, je dirais, par la nostalgie. C'est des jeunes, au contraire, qui sont tournés vers l'avenir en disant « on ne veut plus que ça recommence ». N'oubliez pas qu'on ne dit plus jamais depuis longtemps et que plus jamais, c'est plus jamais aujourd'hui.
Mais ces témoins, Patrick Desbois, ces témoins, ceux que vous avez interrogés, ceux qui ne paraissent pas tellement culpabilisés par ce qu'ils ont fait, eux, est-ce que ça fait communauté avec leurs victimes ?
Oh, pas du tout. Alors eux, pas du tout. Parfois, on a même peur de passer devant une ferme lorsqu'on sait que le grand-père a tué des juifs. Il faut savoir que la violence n'est pas absente de certaines familles et l'antisémitisme dans certains endroits fleurit comme la neige au pôle Nord.
Et pour terminer, Patrick Desbois, un mot d'espoir sur l'humanité.
Il faut aimer la vie et le fait même qu'on puisse parler de ça sur France Culture est déjà une très bonne nouvelle.
Merci beaucoup Patrick Desbois. Matière à penser, Patrick Desbois, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Justine Wilde, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, nous continuerons cette exploration des communautés entre les morts et les vivants avec l'expérience du monde hispano-américain. À demain.